Et à 8h30, c'est l'heure de retrouver la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, chaos ou victoire, la presse n'a visiblement toujours pas tranché sur la question grecque.
Non, en dépit du message retentissant envoyé dimanche par une très large majorité de la population grecque, eh bien toute la presse semble encore perplexe ce matin à l'idée que cette victoire pourtant incontestable d'Alexis Tsipras signifie un véritable tournant capable de conduire rapidement la Grèce vers une sortie de crise. Le combat de coq entre la Grèce et ses créanciers continue, peut-on lire notamment en une de USA Today. Or, tandis que le bras de fer se poursuit, la situation financière du pays, elle continue à empirer. Pis encore, à en croire la Frankfurter Allgemeine Zeitung, non seulement les Grecs doivent se faire à l'idée que rien ne va s'améliorer dans un avenir proche, mais ils remarqueront vite qu'il n'y a même plus de lumière au bout du tunnel. Preuve d'ailleurs qu'il est toujours aussi difficile de savoir qui sont les vrais vainqueurs. Le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, lequel avait annoncé qu'il démissionnerait si le oui l'emportait au référendum, s'est vu finalement poussé à la porte par le non dans son blog. L'homme politique s'est dit favorable à ses démissions pour, je cite, faciliter les négociations, mais là encore rien n'est moins sûr, même si Varoufakis a choisi de laisser sa place et de partir dans le soleil couchant tel un héros de cinéma, écrit The Christian Science Monitor. Son départ amènera-t-il pour autant les créanciers à concéder à la Grèce ce qu'ils lui refusaient hier? Seule certitude, écrit le Temps de Genève, tout laisse croire que sa tête a bien été demandée par les Européens en échange d'une reprise rapide des négociations.
Et autre négociation et autre casse-tête, Thomas, les pourparlers cette fois-ci sur le nucléaire iranien.
Oui, au dernier jour théorique des pourparlers, les négociateurs des grandes puissances et de l'Iran se trouvent aujourd'hui dos au mur. Les discussions censées clore près de 2 ans d'une négociation hors norme s'éternisent dans la capitale autrichienne au point que la possibilité d'un échec ne peut être exclu. Et pour conjurer un tel scénario, eh bien, Washington et Téhéran ont évoqué hier une possible prolongation des négociations. Il faut dire qu'autour de la table se trouverait là encore un autre trublion. Et cet homme, écrit le journal Haaretz, cité par le Courrier International, n'est autre que Laurent Fabius himself. Ces 2 dernières années, le ministre français des Affaires étrangères est devenu le bad cop des négociations, héritant de cette réputation après avoir particulièrement œuvré pour torpiller l'accord intérimaire de novembre 2013 et appelé un nouveau cycle de négociations. Et le quotidien Jérusalem de préciser la méfiance de Laurent Fabius envers Téhéran remonte à l'époque où il était Premier ministre de François Mitterrand. Il y avait eu notamment ce projet de construction d'un réacteur nucléaire, finalement suspendu par la République islamique sans aucune compensation versée à Paris. Le mois dernier, en déplacement en Israël et en Égypte, Laurent Fabius avait d'ailleurs surpris ses interlocuteurs en parlant du danger que faisait courir un éventuel accord parce qu'il encourageait l'Arabie Saoudite et plus généralement le Moyen-Orient tout entier à se lancer dans la course nucléaire. Ou quand l'ouverture de l'Occident vers l'Iran risque de lui aliéner les pays du Golfe et ses juteux contrats. Quoi qu'il en soit, et en attendant que tous les acteurs de ce vaudeville diplomatique repartent de Vienne, une question demeure toujours et encore pour la population iranienne. Quand est-ce qu'ils vont enfin lever les sanctions économiques qui pèsent aussi lourdement sur la vie quotidienne?
Et enfin, ultime round de négociations en cours. Les députés européens débattent aujourd'hui d'un texte sur le partenariat transatlantique de commerce négocié entre l'Union européenne et les États-Unis. Texte qui sera soumis au vote demain.
Et c'est là l'autre sujet sensible inscrit à l'agenda de la semaine. Peut-on lire notamment dans les colonnes du Shanghai Daily. Alors petit rappel, ce que l'on nomme généralement le TTIP est un projet de création d'une zone de libre-échange dans l'Atlantique Nord, sauf que les eurodéputés sont très partagés sur le texte de la résolution, précise la Libre Belgique, en particulier sur les mécanismes d'arbitrage envisagés dans le cadre de l'accord commercial, ces procédures permettant de contourner les juridictions nationales inquiètent nombre de pays européens, car elles sont vues comme la porte ouverte à une remise en cause des politiques publiques, d'où cet entretien à lire ce matin sur le site du Parlement européen, entretien avec le rapporteur allemand Berlang, lequel tente de rassurer. Dans notre résolution, dit-il, nous sommes très clairs sur le fait que des valeurs spécifiques et des traditions européennes ne sont pas incluses dans l'accord, comme par exemple les services publics, la protection des données ou la diversité culturelle. Enfin, s'agissant de diversité culturelle, justement, je citerai ce matin un dernier article, Nicolas, au sujet d'une vive polémique survenue il y a quelques jours au Royal Opera House de Londres, lors de la première de Guillaume Tell, de Rossini, mise en scène par Damiano Micheletto. Polémique car au troisième acte intervient une scène de viol collectif, un moment insoutenable pour les spectateurs qui n'ont pas manqué de faire savoir leur désapprobation. Les sifflets ont aussitôt retenti. The Guardian en particulier a fustigé la scène en question, évoquant un viol collectif long, lascif et voyeuriste. Quant à son confrère du Times, il juge que le véritable motif d'indignation vient non pas de cette scène de viol collectif, mais de ce que le chef d'orchestre, le chœur et les solistes aient dû continuer à évoluer sur scène alors qu'ils n'étaient guère en mesure de s'entendre les uns les autres.
C'était la revue de presse internationale de Thomas Cluzel que vous pouvez retrouver comme toutes les chroniques des matins d'été sur le site franceculture.fr.